Alors, le sujet de la conférence de ce soir, c'est les causes génétiques et environnementales de la SLA. Je tiens à remercier chaque participant d'être là. Et la Société de la SLA est très heureuse et très honorée d'avoir comme conférencier ce soir Dr. Nicolas Dupré. Dr. Dupré est neurologue spécialiste des atteintes neuromusculaires et neurogénétiques au département des sciences neurologiques à l'Enfant Jésus à Québec. Il est professeur adjoint à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est membre associé au Centre d'excellence en neuromique à l'Université de Montréal, à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Dr. Nicolas Dupré a complété sa formation postdoctorale en neurogénétique aux universités McGill et Harvard. Il est présentement responsable de la clinique des maladies neurogénétiques à l'Enfant Jésus à Québec et il mène de nombreux projets de collaboration de recherche sur les maladies héréditaires neurologiques telles les ataxies, les paraparésies spastiques, les neuropathies, les myopathies et les maladies du neurone moteur, la SLA. Donc, c'est vraiment avec grand plaisir que nous vous accueillons, Dr. Dupré. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors, on va commencer en vous demandant, pouvez-vous nous définir c'est quoi exactement la SLA?
En fait, il y a plusieurs critères. En fait, il y a des critères internationaux là, qui nous permettent de définir la maladie. On la définit, disons, surtout en termes de pathophysiologie. Hein. On sait que c'est une maladie du neurone moteur. Des neurones moteurs, ben, on en a au niveau du cerveau et on en a aussi au niveau de la moelle épinière. Alors, ça n'atteint pas les portions sensitives, les portions de la mémoire, les portions visuelles. C'est vraiment limité uniquement aux neurones moteurs, mais il faut, pour qu'on ait on réussisse à poser un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, autant une atteinte du neurone moteur supérieur que du neurone moteur inférieur. Et il faut que, aussi, dans une période de quelques mois ou quelques années, là, il y ait plusieurs segments qui soient atteints. Et donc, quand on divise les segments au niveau anatomique, bon, on parle du segment bulbaire, qui est ce qui atteint surtout, ce qui est responsable surtout de la difficulté d'élocution que présentent les patients avec la SLA. On parle du segment cervical qui va correspondre au mouvement des bras, et le segment lombaire qui correspond au mouvement au niveau des jambes. Alors, ça prend une atteinte, disons, dans généralement les patients avec plusieurs années d'évolution développent une atteinte de ces trois segments, mais pour poser un diagnostic, on s'attend à ce qu'il y ait une atteinte de deux segments. Et on s'attend aussi à ce qu'il n'y ait pas de cause autre qui puisse expliquer cette atteinte-là. Donc, pas d'atteinte tumorale, pas d'atteinte toxique, pas d'infection. Alors, donc, c'est la façon dont on définit cette maladie-là. Puis, c'est une maladie qui a été à l'origine décrite par un grand neurologue français qui s'appelait Charcot. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le nom maladie de Charcot est parfois donné à la sclérose latérale amyotrophique. Lorsqu'on va à la Salpêtrière, qui est un peu le temple de la neurologie du 19e siècle, on peut lire encore ces textes et ces descriptions de la maladie qui correspondent en tout point à celles qu'on décrit aujourd'hui chez nos patients. Alors, c'est une maladie qui est connue depuis longtemps en ce qui a trait à sa description. Mais c'est certain que pour ce qui est des mécanismes qui nous permettent d'en expliquer l'apparition, ben, il y a encore beaucoup de travail à faire.
D'accord. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il existe deux sortes de SLA?
Les scientifiques aiment toujours diviser les choses, hein, les catégoriser. C'est pas parce que nécessairement au niveau scientifique c'est vrai, mais c'est parce que ça nous aide à créer des catégories qui après nous donnent des certaines pistes au niveau étiologique ou au niveau des causes de maladies. Alors, par exemple, lorsqu'on parle de sclérose latérale amyotrophique, il y en a qui définissent des formes bulbaires, des formes cervicales, des formes lombaires. Ben, c'est souvent, on décrit un peu l'endroit où la maladie a commencé ou l'endroit où elle atteint le patient de façon prédominante. Et on peut le diviser un peu selon aussi le fait qu'il y a une histoire familiale ou pas. Alors, on a catégorisé il y a un certain nombre d'années des cas où il y avait une histoire familiale, et ça, on en retrouve surtout dans les populations comme le Midwest américain où il y a beaucoup de gens qui sont d'ascendance suédoise, parce que chez les Suédois, la forme héréditaire est plus fréquente. Alors que dans d'autres populations, la forme héréditaire est beaucoup moins fréquente. Au Québec, elle est très rare. Sous peu, on aura des données pour dire exactement quel est le pourcentage, mais c'est certainement moins de 2%, 1 à 2% de notre population qui présente une forme familiale.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des facteurs environnementaux?
C'est ça. Alors, quand on encore une fois, les scientifiques divisent les choses en différentes catégories. Alors, quand on parle des maladies neurodégénératives, comme la SLA, comme le Parkinson, comme la maladie d'Alzheimer, souvent on essaie de catégoriser un certain nombre de causes, et on sépare ces causes-là en deux grandes catégories. Alors, il y a les facteurs environnementaux, qui sont en fait la somme de tous les événements auxquels on a été exposé depuis presque l'état embryonnaire. Hein. Alors, à partir du moment où on existe comme personne vivante, là, on est exposé à des facteurs environnementaux, que ce soit au niveau embryonnaire, donc pendant la grossesse, que ce soit dans l'enfance ou éventuellement à l'âge adulte. Et la somme de tous ces facteurs-là, ben, c'est certain que ça vient avoir un impact sur l'apparition des maladies. Et les facteurs génétiques, ben ça, on est né avec. Alors, on est avec un certain gène ou on est sans cette anomalie sur ce gène-là. Alors ça, c'est un facteur qui est beaucoup moins qui a un impact sur lequel on ne peut pas influer, là. Mais il y a aussi, on sait que notre patrimoine génétique nous permet de nous défendre, de nous protéger contre certaines anomalies génétiques. Alors c'est très complexe. Alors quand on parle des facteurs environnementaux, disons que on essaie de trouver la première chose qu'on fait au niveau de la recherche, c'est qu'on essaie de trouver est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on a trouvé des toxines qui causaient la maladie? Mm-hmm. Alors, par exemple, dans la maladie de Parkinson, pour prendre un exemple dans lequel on a une toxine clairement démontrée, on a vu qu'il y a des gens qui prenaient une variante de l'héroïne qui les intoxiquait et qui causait exactement ce qu'on a comme problème dans la maladie de Parkinson. Alors ça, c'est clair que il y a au moins dans le Parkinson un facteur environnemental qui crée parfaitement la maladie. Dans la SLA, c'est plus complexe. Les facteurs environnementaux jusqu'à maintenant permettent parfois d'imiter la maladie sous certains aspects, mais on n'a pas encore trouvé un facteur toxique qui était clairement associé avec une maladie qui se rapproche de la SLA. Peut-être à une exception près, il y a eu à un moment donné une maladie qu'on appelait le Parkinson SLA sur l'île de Guam, ça c'est dans le milieu du Pacifique, et cette maladie-là est apparue de façon très fréquente dans les années 50 et par la suite a diminué, et on s'est dit, est-ce qu'il y a un facteur héréditaire ou est-ce qu'il y a un facteur toxique? Alors on a étudié beaucoup les toxines qui étaient présentes sur cette île-là à l'époque. Et c'est pas la vraie sclérose latérale amyotrophique qu'on retrouve là. C'est une maladie qui ressemble un peu. Et là, les gens ont indiqué entre autres des substances qu'on avait sur les noisettes ou les noix qui étaient mangées par les populations locales. Mais c'est encore des hypothèses. Alors, on n'a pas encore malheureusement le modèle toxique parfait là.
D'accord.
Alors, il y a quand même d'autres éléments là, au niveau environnemental, peut-être, dont les gens ont entendu parler, là. Et ça, c'est pas pour nécessairement recréer exactement la maladie, mais c'est pour peut-être augmenter chez certaines personnes la propension à développer la maladie. Alors, il y a beaucoup d'études épidémiologiques, je dirais, de qualité assez assez modeste là, qui ont été faites, pour lesquelles on n'a pas vraiment de conclusion définitive. Alors, il y a des gens qui ont parlé des métaux lourds, le plomb, le sélénium, le mercure, le manganèse, l'aluminium. Ici, c'est pas clair. Il y en a qui ont parlé des pesticides, des solvants ou des emplois qui étaient reliés à la ferme. Ça non plus, c'est pas clair. Il y en a qui ont parlé de traumatisme, d'électrocution, les pilotes d'avions commerciaux, les radiations, les soudeurs, les joueurs de soccer professionnels, les militaires. Mais tout ça, ça reste des études qui sont quand même assez petites, là. Les deux récemment qui ont été peut-être les plus médiatisés, ça a été les joueurs de soccer professionnels et les militaires. Mais encore une fois, il manque il manque de données là, pour être pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe derrière ces comptes rendus-là.
D'accord. Est-ce qu'il est vrai de dire, Dr Dupré, que l'usage du tabac chez les hommes, la consommation d'alcool ainsi que l'entraînement intense sont des facteurs environnementaux qui sont associés à la SLA?
Donc, quand on a étudié l'usage du tabac, il n'y avait pas... dans la maladie de Parkinson, par exemple, le tabac protège, et ça a été bien démontré, là. Par contre, pour la sclérose latérale amyotrophique, il n'y a pas eu d'association comme telle avec le tabac. C'est certain que la survie des patients qui fument est altérée à cause de la fonction pulmonaire là, qui est atteinte, mais ce n'est pas un facteur comme tel qui fait apparaître la maladie chez une personne.
D'accord.
Et pour ce qui est des boissons alcoolisées, il n'y a pas d'association connue. Et je dirais que l'entraînement physique intense non plus n'est pas quelque chose qui était très... par exemple, ceux qui ont étudié les joueurs de soccer professionnels ou ceux qui s'entraînent de façon professionnelle, ils ont trouvé, entre autres en Italie, certaines différences. Mais disons que, est-ce que c'est l'exposition qu'ils avaient eue sur des terrains de soccer à X, Y substances? Est-ce que c'est l'entraînement intense? C'est pas clair. Et encore une fois, c'est des facteurs qui sont quand même assez faibles comme déterminant de la maladie.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des facteurs génétiques?
Bon, ça, les facteurs génétiques, on en connaît beaucoup plus là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que dans la sclérose latérale amyotrophique, il y a des formes familiales qui miment de façon absolue là, la maladie. Donc, on est capable de prendre quelqu'un qui a une histoire familiale et quelqu'un qui n'a pas d'histoire familiale, que ce soit au niveau de l'analyse cellulaire que de l'analyse clinique qu'on fait en EMG ou l'examen neurologique, en tout point, la maladie se ressemble. Alors, la découverte principale qui a été faite au début des années 90, c'était justement ce gène-là qu'on appelle la SOD1, qui est une forme tout de même assez rare de SLA, mais dans certaines populations, on l'est davantage. Au Québec, on n'en a pratiquement pas de cette forme-là. Je dis pratiquement pas parce qu'il nous reste encore à compléter nos données d'ici la fin de l'année, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de cas rapportés ou décrits dans la littérature au Québec qui était associé avec cette forme-là. En tout cas, pas dans la population canadienne-française. Ça a été une découverte majeure parce qu'on a été capable, après ça, d'insérer ce gène-là dans des modèles animaux et après de faire des modèles animaux qui nous ont permis de reproduire la maladie. Et une fois qu'on le reproduit, ben là, on est capable, après ça, de l'étudier davantage à l'échelle des modèles animaux parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à du tissu de laboratoire à ce niveau-là. Alors, ça a été une découverte vraiment majeure. Et dans les dernières années, il y a eu d'autres gènes qui ont été décrits. Nous, on a participé à une étude sur le PON. C'est un autre gène qui a été identifié. On a participé aussi à une étude sur le TDP-43, le FROS. Alors ça, c'est toutes des études qui sont sorties dans les deux dernières années et qui ont montré qu'il y avait une contribution de facteurs génétiques qui était significative. Ça explique pas, ça explique seulement une minorité des patients, mais c'est tout de même des pistes au niveau de la compréhension de la maladie qui sont extrêmement importantes.
D'accord. Donc, est-ce qu'en présentement, ce sont les études qui ont cours actuellement ou s'il y en a d'autres qui sont en cours actuellement sur...
Disons que le grand défi disons de la prochaine décennie là, pour la SLA, la dernière décennie, on l'a passé à essayer de chercher les autres gènes. Il va y en avoir encore. Actuellement, on a fait des études du génome, et ça, c'est des études très complexes avec des centaines et même des milliers de patients. Mais ces études-là ne nous ont pas donné les résultats attendus. Alors, là, ce qui va rester, c'est d'intégrer les facteurs génétiques et environnementaux au sein d'une même étude. Et ça, ça fait 5 ans qu'on se prépare à ça avec notre cohorte au Québec et en lien avec un groupe français de Paris. Et d'après moi, dans quelques années, on aura des données intéressantes à cet effet-là. On répertorie au Québec la grande majorité des patients qui ont la maladie, ceux qui sont entre autres surtout dans la région de Québec et aussi à Montréal à la clinique de Notre-Dame. Donc tous ces gens-là sont répertoriés et on a un certain suivi à cet effet-là. Et tous les patients ont été prélevés aussi pour les études génétiques, ont été questionnés pour l'aspect épidémiologique. Alors on a un échantillon qu'on est en train de bâtir qui est assez unique là, à l'échelle internationale et on devrait être capable au moins d'adresser ces questions-là dans les prochaines années.
D'accord. Comment se déroule une étude, par exemple? Est-ce que c'est tout le monde qui peut participer à ça? Est-ce qu'il faut faire une demande? Et comment ça se déroule exactement, une étude?
Donc, au Québec, souvent, les soins, je dirais que pour la majorité des patients, les soins vont être assez centralisés, là. Ils vont être aller à une des principales cliniques reconnues par SLA Québec. Et lorsqu'ils sont dans ces cliniques-là, bien, en général, leur médecin traitant va leur proposer de participer à une étude. Alors, par exemple, les patients du Saguenay vont nous être référés souvent pour l'étude. Ceux qui peuvent se déplacer ou qui acceptent de le faire. Les patients de la région de Québec vont tous l'être parce que les cliniciens sont regroupés à ce niveau-là. Dans la région de Montréal, ben, ceux qui sont traités à la clinique de l'hôpital Notre-Dame, qui était à Saint-Luc avant, vont être invités. Alors, c'est le médecin traitant qui est impliqué dans l'étude, qui va aborder le patient à ce niveau-là. On a limité notre échantillon pour le moment, pour des raisons purement scientifiques, là, à un échantillon de population canadienne-française, parce que c'est plus facile au point de vue génétique d'étudier une seule population que d'étudier une population mixte. Dans le moment, on est plus restreint à ce segment-là. Mm-hmm. Mais à l'échelle internationale, par contre, quand on collabore avec les Français, ben là, c'est pas juste les populations françaises de souche, c'est vraiment une population très vaste. Alors, on est capable d'étudier des populations vastes ou des populations plus restreintes dans la même étude.
D'accord. Moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais comme question de préparer. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose que j'ai peut-être oublié de mentionner concernant l'éco génétique environnementale de la SLA?
Ben, disons que je crois que je peux mettre l'emphase peut-être sur l'importance de participer à ces études. Je dirais que le message est passé là, chez la plupart de nos patients, et puis la réponse est extrêmement favorable. Alors je dirais que on a certainement, pour les patients qui sont abordés et qui font partie des cliniques qui collaborent, on a certainement 90% des gens qui sont impliqués. Je pense que c'est toujours un peu un message d'espoir là, de comprendre les causes et puis donc toutes les questions auxquelles je réponds ce soir, j'y réponds parce que des gens ont accepté de collaborer à des études. Alors c'est un peu un témoignage qu'on fait à tous les patients internationalement qui sont impliqués avec leurs médecins dans la recherche et dans la compréhension des causes.